Chapitre 23. À la vue de M. de la Roche-Aigu, apparaissant ainsi à peu de distance du canapé où elle s'était tenue pendant son entretien avec M. de Maillefort, la baronne s'écria « Comment, monsieur, vous étiez là ?»«
Certainement. »
« Car pressentant que votre entretien avec M. de Maillefort deviendrait très intéressant, dès que vous seriez tous deux seuls, j'ai fait le tour par le petit salon, et je suis venu écouter là, derrière ces portières, tout près de vous. »«
Eh bien ?»
Vous l'avez entendu, ce maudit marquis ?
Oui, madame.
Et j'ai aussi entendu que vous avez eu la faiblesse de l'engager à revenir, au lieu de lui signifier nettement son congé. Vous aviez une si belle occasion.
Eh, monsieur, est-ce que monsieur de Maillefort ne peut pas être aussi dangereux de loin que de près ?
Il me l'a bien fait comprendre. Et d'ailleurs, on ne traite pas avec cette grossièreté un homme de la naissance et de l'importance de monsieur de Maillefort.
Et qu'en adviendrait-il donc, s'il vous plaît ?
Il n'en adviendrait, monsieur, que le marquis vous ferait demander satisfaction de cette impertinence. Vous ne l'avez donc pas entendu. Ignorez-vous qu'il a eu plusieurs duels, toujours malheureux pour ses adversaires, et que tout dernièrement encore, il a forcé M. de Mornant à se battre dans une chambre pour une plaisanterie.
Et moi, madame, je n'aurais pas été aussi bénévole, aussi débonnaire, aussi simple que M. de Mornant.
Je ne me serais pas battu. Ah, voilà.
Alors, M. de Maillefort vous eut partout poursuivi et accablé de ses épigrammes. Il y avait de quoi vous faire déserter le monde, à force de honte.
Mais c'est donc une bête enragée que ce monstre-là. Il n'y a donc pas de loi.
Ah, si j'étais à la Chambre des Pairs, de tels scandales ne resteraient pas impunis.
On ne serait plus à la merci du premier coupe-jarret, s'écria le malheureux baron.
Mais pour l'amour de Dieu, à qui en a-t-il ? Que veut-il, ce damné marquis ?
« Vous avez en vérité bien peu de pénétration, monsieur. Il a pourtant parlé avec une assez insolente franchise. D'autres auraient pris des détours, auraient agi de ruse. Monsieur de Maillefort, point. Vous voulez marier mademoiselle de Beauménil. Je vais voir, moi, comment et à qui vous la marierez, et si l'envie m'en prend, dans ce mariage, j'interviendrai. Voilà ce qu'il a eu l'audace de me dire. Et cette menace, il peut la tenir. »
Heureusement, Ernestine paraît avoir une peur horrible de cet affreux bossu.
Et Héléna doit lui dire qu'il était l'ennemi acharné de la comtesse.
Qu'est-ce que cela fera ?
Supposons que nous trouvions un parti convenable pour nous et pour Ernestine. Le marquis, par ses railleries, par ses sarcasmes, n'est-il pas capable de donner à cette innocente fille l'aversion de celui que nous voudrions lui faire épouser ?
Et ce n'est pas seulement ici qu'il peut nous jouer ce tour odieux, et bien d'autres qu'il est capable d'imaginer. Il nous les jouera partout où il rencontrera Ernestine, car nous ne pouvons pas la séquestrer. Il faut que nous la conduisions dans le monde.
C'est donc cela, surtout, que vous craignez.
Je serais assez de votre avis si...
Eh, monsieur, est-ce que je sais ce que je crains ? J'aimerais 100 fois mieux avoir une crainte réelle, si menaçante qu'elle fût. Je saurais du moins où est le péril. Je m'arrangerais pour y échapper, tandis qu'au contraire, le marquis nous laisse dans une perplexité incessante, et cela peut nous faire commettre 100 maladresses, nous gêner, et paralyser peut-être les résolutions que nous aurons à prendre dans notre intérêt. Il faut, en un mot, nous résigner à nous dire « Il y a là un homme d'une pénétration et d'un esprit diabolique, qui voit ou qui cherche à voir ou à savoir tout ce que nous ferons et qui, malheureusement, a 1000 moyens de réussir, tandis que nous n'avons que moyen, nous, d'échapper à sa surveillance. »
J'en reviens à mon idée de tout à l'heure, dit le baron d'un air très satisfait. Je la crois juste, vraie, évidente, cette idée.
Quelle idée ?
C'est que le marquis est un bien prodigieux scélérat.
Bonsoir, monsieur, dit impatiemment madame de la Roche-Aigu en se dirigeant vers la porte du salon.
Comment ? Dit le baron. Vous vous en allez comme cela ? Dans une pareille extrémité, sans convenir de rien ?
Convenir de quoi ?
De ce qu'il y a à faire.
« Est-ce que j'en sais quelque chose ?»
s'écria madame de la Roche-Aigu hors d'elle-même et en frappant du pied.
« Ce méchant bossu m'a complètement démoralisé, et vous achevez de me rendre stupide par vos belles réflexions. »
Et madame de la Roche-Aigu quitta le salon dont elle referma la porte avec violence au nez du baron. Pendant l'entretien de madame de la Roche-Aigu et de monsieur de Maillefort, Héléna avait reconduit mademoiselle de Beauménil chez elle, lui disant, au moment de la quitter, « Allons, dormez bien, ma chère Ernestine, et priez le Seigneur qu'il éloigne de vos rêves la figure de ce vilain monsieur de Maillefort. En effet, mademoiselle, je ne sais pourquoi, il me fait presque peur.
Ce sentiment est bien naturel,
répondit doucement la dévote,
et plus opportun que vous ne le pensez,
car si vous saviez. Et comme Héléna se taisait, la jeune fille reprit,
vous n'achevez pas, mademoiselle.
C'est qu'il est des choses pénibles à dire contre le prochain,
quoique méritées,
ajouta la dévote d'un air béat.
Ce monsieur de Maillefort.
Eh bien, mademoiselle,
je crains de vous attrister, ma chère Ernestine.
Je vous en prie, parlez, mademoiselle.
Ce méchant marquis, puisqu'il faut vous le dire, a été l'un des ennemis les plus acharnés de votre pauvre chère mère.
De ma mère ? S'écria douloureusement mademoiselle de Beauménil. Puis elle ajouta avec une touchante naïveté,
l'on vous a trompé, mademoiselle. Ma mère ne pouvait pas avoir d'ennemis.
Héléna secoua tristement la tête et répondit d'un ton de tendre commisération,
cher enfant, cette candide ignorance fait l'éloge de votre cœur, mais hélas, les êtres les meilleurs, les plus inoffensifs, sont exposés au courroux des méchants. Les brebis n'ont-elles pas pour ennemis les loups ravisseurs ?
Et que lui avait donc fait ma mère à monsieur de Maillefort, mademoiselle ?
Demanda Ernestine, les larmes aux yeux.
Elle, la pauvre chère femme, mais rien.
Jésus, mon Dieu, autant dire que l'agneau irait attaquer le tigre.
Alors, mademoiselle, quel était le sujet de la haine de monsieur de Maillefort ?
Hélas, ma pauvre enfant, mes confidences ne peuvent aller jusque-là, c'est trop odieux,
répondit Héléna en soupirant,
trop horrible.
J'avais donc raison de craindre cet homme,
dit Ernestine avec amertume,
et pourtant je me reprochais de céder sans raison à un éloignement involontaire.
Ah, ma chère enfant, puissiez-vous n'avoir jamais d'éloignement plus mal justifié ?
Dit la dévote en levant les yeux au ciel.
Puis elle reprit.
Allons, ma chère Ernestine, je vous laisse. Dormez bien. Demain matin, je viendrai vous prendre à 9 heures pour aller à l'office.
À demain, mademoiselle. Hélas, vous me laissez avec une triste pensée. Ma mère avait un ennemi.
Il vaut mieux connaître les méchants que les ignorer, ma chère Ernestine.
Au moins, l'on peut se garantir de leur maléfice.
Adieu donc. À demain matin.
À demain, mademoiselle.
Et mademoiselle de la Rochegue s'en alla toute heureuse de l'adresse perfidie avec laquelle elle avait laissé au cœur de mademoiselle de Beauménil une cruelle défiance contre monsieur de Maillefort. Ernestine, restée seule, sonna sa gouvernante, qui lui servait de femme de chambre. Madame l'aînée entra. Elle avait 40 ans environ, une physionomie doucereuse, des manières prévenantes, empressées, mais dont l'empressement même annonçait quelque chose de servile. Bien éloignée de ce dévouement de bonne nourrice, dévouement naïf, absolu, mais cependant empreint de toute la dignité d'une affection désintéressée.
« Mademoiselle veut se coucher ?» dit madame l'aînée à Ernestine.
« Non, ma bonne l'aînée, pas encore. Apportez-moi, je vous prie, mon nécessaire à écrire. »«
Oui, mademoiselle. »
Le nécessaire à écrire étant apporté dans la chambre d'Ernestine, sa gouvernante lui dit «
J'aurai à faire part de quelque chose à mademoiselle.
Qu'est-ce que c'est ?
Madame la baronne a arrêté une femme de chambre coiffeuse et une autre femme pour mademoiselle et...
Je vous ai déjà dit, ma bonne l'aînée, que je ne voulais pour mon service particulier aucune autre personne que vous et Thérèse.
Je le sais, mademoiselle, et je l'ai fait observer à madame la baronne, mais elle craint que vous ne soyez pas suffisamment servie.
Vous me suffisez parfaitement.
Madame la baronne a dit que néanmoins ces demoiselles resteraient à l'hôtel, dans le cas où vous en auriez besoin.
Et cela se trouve d'autant mieux que madame la baronne a dernièrement renvoyé sa femme de chambre et que ces demoiselles lui serviront en attendant.
À la bonne heure, répondit Ernestine avec indifférence.
Mademoiselle n'a besoin de rien ?
Non, merci.
Mademoiselle se trouve toujours bien dans cet appartement ?
Très bien.
Il est du reste superbe. Mais il n'y a rien de trop beau pour mademoiselle, c'est ce que tout le monde dit.
« Ma bonne l'aînée, » dit Ernestine sans répondre à l'observation de sa gouvernante,
« vous me préparez ce qu'il me faut pour ma toilette de nuit.
Je me coucherai seule et vous m'éveillerez demain avant 8 heures. »«
Oui, mademoiselle. »
Puis, au moment de sortir, madame l'aînée reprit pendant qu'Ernestine ouvrait son secrétaire à écrire,
« J'aurai quelque chose à demander à mademoiselle.
Que voulez-vous ?
Je serais bien reconnaissante à mademoiselle s'il pouvait avoir la bonté de me donner 2 heures demain ou après pour aller voir une de mes parentes, Madame Herbault, qui demeure au Batignolles.
Eh bien, allez-y demain matin, pendant que je serai à l'office.
Je remercie mademoiselle de sa bonté.
Bonsoir, ma bonne l'aînée,
dit Ernestine, en donnant ainsi congé à sa gouvernante qui semblait vouloir continuer la conversation.
Cet entretien donne une idée assez juste des relations qui existaient entre mademoiselle de Beauménil et madame l'aînée. Celle-ci avait souvent, en vain, essayé de se familiariser avec sa jeune maîtresse. Mais au premier mot de la gouvernante dans cette voix, mademoiselle de Beauménil coupait court à l'entretien, jamais avec hauteur ou avec dureté, mais en lui donnant quelque ordre avec une affectueuse bonté. Après le départ de madame l'aînée, Ernestine resta longtemps pensive, puis, s'asseyant devant la table où était son nécessaire à écrire, elle l'ouvrit et en tira un petit album relié en cuir de Russie, dont les premiers feuillets étaient déjà remplis. Rien de plus simple, de plus touchant que l'histoire de cet album. Lors de son départ pour l'Italie, Ernestine avait promis à sa mère, ainsi que la comtesse l'avait dit à Herminie, de lui écrire chaque jour une espèce de journal de son voyage. À cette promesse, la jeune fille n'avait manqué que pendant les quelques jours qui suivirent la mort inattendue de son père. Et pendant les quelques jours, non moins affreux, qui succédèrent à la nouvelle de la mort de la comtesse de Beauménil. Le premier accablement de la douleur passée, Ernestine trouva une sorte de pieuse consolation à continuer d'écrire chaque jour à sa mère, se faisant ainsi une illusion à la fois douce et cruelle, en poursuivant ses confidences si touchantes. La première partie de cet album contenait la copie des lettres écrites par Ernestine à sa mère du vivant de celle-ci. La seconde partie, séparée de la première par une croix noire, contenait les lettres que la pauvre enfant n'avait hélas pas eu besoin de recopier. Mademoiselle de Beauménil s'assit donc devant la table. Après avoir essuyé les larmes qui provoquaient toujours la vue de cet album, rempli pour elle de poignants souvenirs, elle écrivit les lignes suivantes.
« Je ne t'ai pas écrit, chère maman, depuis mon arrivée chez M. de la Rochegue, mon tuteur, parce que je voulais autant que possible me bien rendre compte de mes premières impressions. Et puis tu sais comme je suis. Depuis que je t'ai quitté, lorsque j'arrive quelque part, je me trouve pendant un jour ou deux tout étonné, presque attristé par le changement. Il faut que je m'habitue, pour ainsi dire, à la vue des choses dont je suis entouré pour retrouver ma liberté d'esprit. L'appartement que j'occupe ici toute seule est si magnifique, si grand, qu'hier je m'y regardais comme perdu. Cela me faisait presque peur. Aujourd'hui, je commence à m'y habituer. Madame de la Rochegue, son mari et sa sœur m'ont reçu comme leur enfant. Ils me comblent d'attention, de prévenance. Et si l'on pouvait avoir pour un si bon accueil un sentiment autre que celui de la reconnaissance, je m'étonnerais de ce que des personnes d'un âge si vénérable me traite avec autant de déférence. Monsieur de la Rochegue, mon tuteur, est la bonté même. Sa femme, qui me gâte à force de tendresse, est très gaie, très animée. Quant à mademoiselle Héléna, sa belle-sœur, je ne crois pas qu'il y ait de personne plus douce et plus sainte. Tu vois, chère maman, que tu peux être rassurée sur le sort de ta pauvre Ernestine. Entourée de tant de soins, elle est aussi heureuse qu'elle peut l'être désormais. Mon seul désir serait de me voir mieux connu de M. de la Rochegue et des siens. Alors, sans doute, il me traiterait avec moins de cérémonie. Il ne me ferait plus de ces compliments dont je suis embarrassé, et que l'on se croit sans doute obligé de me faire afin de me mettre en confiance. Bons et excellents parents, ils s'ingénient chacun de son côté à chercher ce que l'on peut dire de plus aimable à une jeune fille. Plus tard, ils verront, je l'espère, qu'ils n'avaient pas besoin de me flatter pour s'assurer de mon attachement. En m'accueillant chez eux, on dirait presque qu'ils sont mes obligés. Cela ne m'étonne pas, chère maman. Combien de fois ne m'as-tu pas dit que les gens délicats semblaient toujours reconnaissants des services qu'ils avaient le bonheur de pouvoir rendre. J'ai eu aussi quelques moments pénibles, non par la faute de mon tuteur ou de sa famille, mais par une circonstance, pour ainsi dire, forcée. Ce matin, un monsieur, mon notaire, à ce que j'ai appris, m'a été présenté par mon tuteur qui m'a dit « Ma chère pupille, il est bon que vous sachiez le chiffre exact de votre fortune et monsieur va vous en instruire. » Alors le notaire, ouvrant un registre qu'il avait apporté, m'en a fait voir la dernière page toute remplie de chiffres en me disant « Mademoiselle, d'après le relevé exact de… » Il a ajouté un mot que je ne me rappelle pas. « Vos revenus se montent à la somme de 3 120 000 francs environ, ce qui vous fait à peu près 8 000 francs par jour. » « Rien que cela, » a ajouté le notaire en riant. « Aussi êtes-vous la plus riche héritière de France. » Alors, pauvre chère maman, cela m'a rappelé ce qu'hélas je n'oublie presque jamais, que j'étais orpheline, seule au monde, et malgré moi j'ai pleuré. Ernestine de Beauménil s'interrompit d'écrire. De nouveau, ses larmes coulèrent abondamment, car pour cette tendre et naïve enfant, l'héritage, c'était la mort de sa mère, de son père. Plus calme, elle reprit la plume et continua. « Et puis, maman, il m'est impossible de t'expliquer cela, mais en apprenant que j'avais 8 000 francs par jour, comme disait le notaire, j'ai ressenti une grande surprise, mêlée presque de crainte. Tant d'argent, à moi seul, pourquoi cela ? Me disais-je. Il me semblait que c'était une injustice. Qu'avais-je fait pour être si riche ? Et puis encore ces mots qui m'avaient fait pleurer. « Vous êtes la plus riche héritière de France. » Alors m'effrayait presque. Oui, je ne sais comment t'expliquer cela, mais en songeant que je possédais cette immense fortune, je me sentais inquiète. Il me semble que je devais éprouver ce qu'éprouvent les gens qui ont un trésor, et qui tremblent à la pensée des dangers qu'ils courraient si on voulait les voler. Et pourtant non, cette comparaison n'est pas bonne. Car je n'ai jamais tenu à l'argent que toi et mon père vous me donniez chaque mois pour mes fantaisies. Mon Dieu, chère maman, j'analyse mal ce que je ressens en pensant à mes richesses, comme ils disent. Cela est involontaire et inexplicable. Peut-être je m'accoutumerai à penser autrement. En attendant, je suis chez d'excellents parents. Qu'ai-je à craindre ? C'est un enfantillage de ma part, sans doute. Mais à qui dirais-je tout, chère maman, si ce n'est à toi ? Monsieur de la Rochegue et les siens sont parfaits pour moi, mais je ne serai jamais tout à fait en confiance avec eux, tu le sais, sauf pour toi et mon père. J'ai toujours été naturellement très réservé, et souvent je me reproche de ne pouvoir me familiariser davantage avec ma bonne l'aînée, qui est pourtant à mon service depuis plusieurs années. Cette familiarité m'est impossible, cependant je suis loin d'être fier. Puis, faisant allusion à l'aversion qu'elle éprouvait pour M. de Maillefort, ensuite des calomnies de la dévote, Ernestine ajouta « J'ai été cruellement émue ce soir. Mais il s'agit d'une chose si indigne que par respect pour toi, ma chère maman, je ne veux pas l'écrire. Et puis, je n'en aurai pas, je crois, le courage. Bonsoir, chère maman. Demain matin et les autres jours, j'irai à l'office de 9 heures avec Mademoiselle de la Rochegue. Elle est si bonne que je n'ai pas voulu la refuser. Cependant, mes vraies prières, chère et pauvre maman, sont celles que je fais dans le recueillement et dans la solitude. Demain matin et les autres jours, perdu au milieu des indifférents, je prierai pour toi. Mais c'est toujours lorsque je suis seul, comme à cette heure, lorsque toutes mes pensées, toute mon âme s'élèvent vers toi, que je te prie, comme on prie Dieu, bonne et sainte mère. » Après avoir enfermé l'album dans le nécessaire dont elle portait toujours la clé suspendue à son cou, l'orpheline se coucha et s'endormit, le cœur plus calme, plus consolé depuis qu'elle avait épanché ses naïves confidences dans le sein d'une mère, hélas, alors immortelle.